Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble pour cette soirée de lecture et la suite du texte de Honoré de Balzac, La Grande Bretèche. J'emportai le testament, et quand il fut ouvert, je vis que Madame de Merret m'avait nommé son exécuteur testamentaire. Elle léguait la totalité de ses biens à l'hôpital de Vendôme, sauf quelques legs particuliers. Mais voici quelles furent ses dispositions relatives à la Grande Bretèche. Elle me recommanda de laisser cette maison pendant 50 années révolues, à partir du jour de sa mort, dans l'état où elle se trouverait au moment de son décès, en interdisant l'entrée des appartements à quelque personne que ce fût en défendant d'y faire la moindre réparation, et allouant même une rente afin de gager des gardiens s'il en était besoin, pour assurer l'entière exécution de ses intentions. À l'expiration de ce terme, si le vœu de la testatrice a été accompli, la maison doit appartenir à mes héritiers, car monsieur sait que les notaires ne peuvent accepter de legs. Sinon, la Grande Bretèche reviendrait à qui de droit, mais à la charge de remplir les conditions indiquées dans un codicille annexé au testament, et qui ne doit être ouvert qu'à l'expiration des dites 50 années. Le testament n'a point été attaqué, donc. À ce mot, et sans achever sa phrase, le notaire oblong me regarda d'un air de triomphe. Je le rendis tout à fait heureux en lui adressant quelques compliments. « Monsieur, lui dis-je, en terminant, vous m'avez si vivement impressionné que je crois voir cette mourante plus pâle que ses draps. Ses yeux luisants me font peur, et je rêverai d'elle cette nuit. Mais vous devez avoir formé quelques conjectures sur les dispositions contenues dans ce bizarre testament. » « Monsieur, me dit-il, avec une réserve comique, je ne me permets jamais de juger de la conduite des personnes qui m'ont honoré par le don d'un diamant. » Je déliai bientôt la langue du scrupuleux notaire vendômois, qui me communiqua, non sans de longues digressions, les observations dues au profond politique des deux sexes dont les arrêts font foi dans Vendôme. Mais ces observations étaient si contradictoires, si diffuses, que je faillis m'endormir malgré l'intérêt que je prenais à cette histoire authentique. Le ton lourd et l'accent monotone de ce notaire, sans doute habitué à s'écouter lui-même et à se faire écouter de ses clients ou de ses compatriotes, triomphèrent de ma curiosité. Heureusement, il s'en alla. « Ah, ah, monsieur !» « Bien des gens, me dit-il dans l'escalier, voudraient vivre encore 45 ans. » Mais, petit moment, et il se mit d'un air fin l'index de sa main droite sur sa narine, « faites bien attention à ceci. Pour aller jusque-là, dit-il, il ne faut pas avoir la soixantaine. » Je fermai ma porte après avoir été tiré de mon apathie par ce dernier trait que le notaire trouva très spirituel. Puis, Je m'assis dans mon fauteuil en mettant mes pieds sur les deux chenets de ma cheminée. Je m'enfonçais dans un roman à la Radcliffe, bâti sur les données juridiques de M. Regnault, quand ma porte, manœuvrée par la main adroite d'une femme, tourna sur ses gonds. Je vis venir mon hôtesse, grosse femme réjouie de belle humeur, qui avait manqué sa vocation. C'était une Flamande qui aurait dû naître dans un tableau de Teniers. « Eh bien, monsieur, me dit-elle, monsieur Regnault vous a sans doute rabâché son histoire de la Grande Bretèche. »« Oui, Merlepas, que vous a-t-il dit ?» Je lui répétai en peu de mots la ténébreuse et froide histoire de madame de Merret. À chaque phrase, mon hôtesse tendait le cou en me regardant avec une perspicacité d'aubergiste, espèce de juste milieu entre l'instinct du gendarme, l'astuce de l'espion et la ruse du commerçant. Ma chère madame Lepas, ajoutai-je, en terminant, vous paraissez en savoir davantage, hein ? Autrement, pourquoi seriez-vous montée chez moi ? Ah, foi d'honnête femme, aussi vrai que je m'appelle Lepas, ne jurez pas, vos yeux sont gros d'un secret, vous avez connu monsieur de Merret. Quel homme était-ce ? Dame, monsieur de Merret, voyez-vous, c'était un bel homme qu'on ne finissait pas de voir tant il était long. Un digne gentilhomme venu de Picardie et qui avait, comme nous disons ici, la tête près du bonnet. Il payait tout comptant pour n'avoir des difficultés avec personne. Voyez-vous, il était vif. Nos dames le trouvaient toutes fort aimables. Parce qu'il était vif, dis-je à mon hôtesse. Peut-être bien, dit-elle. Vous pensez bien, monsieur, qu'il fallait bien avoir eu quelque chose devant soi, comme on dit, pour épouser madame de Merret, qui, sans vouloir nuire aux autres, était la plus belle et la plus riche personne du Vendômois. Elle était aux environs de 20 000 livres de rente. Toute la ville assistait à sa noce. La mariée était mignonne et avenante, un vrai bijou de femme. Ah, ils ont fait un beau couple dans le temps. Ont-ils été heureux en ménage ?
Oh, oui et non, autant qu'on peut le présumer, car vous pensez bien que nous autres, nous ne vivions pas à peau et à ro avec eux.
Madame de Merret était une bonne femme bien gentille, qui avait peut-être bien à souffrir quelquefois des vivacités de son mari. Mais quoique un peu fière, nous l'aimions. Bah, c'était son état à lui d'être comme ça, quand on est noble, voyez-vous. Mais cependant, il a bien fallu quelques catastrophes pour que monsieur et madame de Merret se séparassent violemment.
Je n'ai point dit qu'il y ait eu de catastrophes, monsieur, je n'en sais rien.
Bien, je suis sûr maintenant que vous savez tout. Eh bien, monsieur, je vais vous dire. En voyant monter chez vous, monsieur Regnault, j'ai bien pensé qu'il vous parlerait de madame de Merret à propos de la Grande Bretèche. Ça m'a donné l'idée de consulter monsieur qui me paraît un homme de bon conseil et incapable de trahir une pauvre femme comme moi qui n'ai jamais fait de mal à personne et qui se trouve cependant tourmentée par sa conscience. Jusqu'à présent, je n'ai point osé m'ouvrir aux gens de ce pays. Ce sont tous des bavards à langue d'acier. Enfin, monsieur, je n'ai pas encore eu de voyageur qui soit demeuré si longtemps que vous dans mon auberge et auquel je puisse dire l'histoire des 15 000 francs.
Ma chère madame Lepas, lui répondis-je, en arrêtant le flux de ses paroles, si votre confidence est de nature à me compromettre, pour tout au monde, je ne voudrais pas en être chargé.
« Ne craignez rien, » dit-elle en m'interrompant. « Vous allez voir. »
Cet empressement me fit croire que je n'étais pas le seul à qui ma bonne aubergiste eût communiqué le secret dont je devais être l'unique dépositaire, et j'écoutai.
« Monsieur, » dit-elle, « quand l'empereur,
envoyait ici des Espagnols, prisonniers de guerre ou autres, j'eus à loger au compte du gouvernement un jeune Espagnol envoyé à Vendôme sur parole. Malgré la parole, il allait tous les jours se montrer au sous-préfet. C'était un grand d'Espagne, excusez du peu. Il portait un nom en os et en dia, comme Bagos de Feredia. J'ai son nom écrit sur mes registres. Vous pouvez le lire si vous voulez. Oh, c'était un beau jeune homme pour un Espagnol qu'on dit tous laid. Il n'avait guère que 5 pieds, 2 ou 3 pouces, mais il était bien fait. Il avait de petites mains qu'il soignait, ah, fallait voir. Il avait autant de brosses pour ses mains qu'une femme en a pour toutes ses toilettes. Il avait de grands cheveux noirs, un œil cuivré, mais qui me plaisait tout de même. Il portait du linge fin, comme je n'en ai jamais vu à personne, quoique j'ai logé des princesses, entre autres le général Bertrand, le duc et la duchesse d'Abrantès, monsieur Decazès et le roi d'Espagne. Il ne mangeait pas grand-chose. Il avait des manières si polies, si aimables, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Oh, je l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne dît pas 4 paroles par jour et qu'il fût impossible d'avoir avec lui la moindre conversation. Si on lui parlait, il ne répondait pas. C'était un tic, une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit. Il lisait son bréviaire comme un prêtre, il allait à la messe et à tous les offices régulièrement. Où se mettait-il? Nous avons remarqué cela plus tard, à 2 pas de la chapelle de Madame de Merret. Comme il se plaça là dès la première fois qu'il vint à l'église, personne n'imagina qu'il y eût de l'intention dans son fait. D'ailleurs, il ne levait pas le nez dessus son livre de prière, le pauvre jeune homme. Pour lors, monsieur, le soir, il se promenait sur la montagne, dans les ruines du château. C'était son seul amusement à ce pauvre jeune homme. Il se rappelait là son pays. On dit que c'est tout montagne en Espagne. Dès les premiers jours de sa détention, il s'attarda. Je fus inquiète en ne le voyant revenir que sur le coup de minuit. Mais nous nous habituâmes tous à sa fantaisie. Il prit la clé de la porte et nous ne l'attendîmes plus. Il logeait dans la maison que nous avions dans la rue des Casernes. Pour lors, un de nos valets d'écurie nous dit qu'un soir, en allant faire baigner les chevaux, il avait vu le grand d'Espagne nageant au loin dans la rivière comme un vrai poisson. Quand il revint, je lui dis de prendre garde aux herbes. Il parut contrarié d'avoir été vu dans l'eau.
De ce musicien, c'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien, c'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons quand tu étais dans la maison. Il attend plus depuis tant de saisons, le temps n'est plus au violon. Dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant le dommage, je n'attends personne. Moi de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi de ce musicien, et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé, comme une symphonie, fait son entrée dans cette chambre. Dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder
vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'autre moi, je n'attends personne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
La Grande Bretèche, Honoré de Balzac. Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un matin, nous ne le trouvâmes plus dans sa chambre. Il n'était pas revenu. À force de fouiller partout, je vis un écrit dans le tiroir de sa table où il y avait 50 pièces d'or espagnoles qu'on nomme des portugaises et qui valaient environ 5000 francs. Puis des diamants pour 10 000 francs dans une petite boîte cachetée. Son écrit disait donc qu'au cas où il ne reviendrait pas, il nous laissait cet argent et ces diamants à la charge de fonder des messes pour remercier Dieu de son évasion et pour son salut. Dans ce temps-là, j'avais encore mon homme qui courut à sa recherche. Et voilà le drôle de l'histoire, il rapporta les habits de l'Espagnol qu'il découvrit sous une espèce de pilotis sur le bord de la rivière, du côté du château, à peu près en face de la Grande Bretèche. Mon mari brûla les habits après avoir lu la lettre, et nous avons déclaré, suivant le désir du comte Férédia, qu'il s'était évadé. Le passe a cru que l'Espagnol s'était noyé. Moi, monsieur, je ne le pense point. Je crois plutôt qu'il est pour quelque chose dans l'affaire de Madame de Merret, vu que Rosalie m'a dit que le crucifix auquel sa maîtresse tenait tant qu'elle s'est fait ensevelir avec était d'ébène et d'argent. Or, dans les premiers temps de son séjour, monsieur Férédia en avait un d'ébène et d'argent que je ne lui ai plus revu. Maintenant, monsieur, n'est-il pas vrai que je ne dois point avoir de remords des 15 000 francs de l'Espagnol et qu'ils sont bien à moi ? Certainement. Mais vous n'avez pas essayé de questionner Rosalie. Oh, si fait, monsieur, que voulez-vous ? Cette fille-là, c'est un mur. Elle sait quelque chose, mais il est impossible de la faire jaser. Après avoir encore causé avec moi, mon hôtesse me laissa en proie à des pensées vagues et ténébreuses, à une curiosité romanesque, à une terreur religieuse assez semblable au sentiment profond qui nous saisit quand nous entrons à la nuit dans une église sombre où nous apercevons une faible lumière lointaine sous des arceaux élevés. Une figure indécise glisse, un frottement de robe ou de soutane se fait entendre. Nous avons frissonné. La Grande Bretèche et ses hautes herbes, ses fenêtres condamnées, ses ferrements rouillés, ses portes closes, ses appartements déserts, se montra tout à coup fantastiquement devant moi. J'essayai de pénétrer dans cette mystérieuse demeure en y cherchant le nœud de cette solennelle histoire, le drame qui avait tué 3 personnes. Rosalie fut à mes yeux l'être le plus intéressant de Vendôme. Je découvris en l'examinant les traces d'une pensée intime, malgré la santé brillante qui éclatait sur son visage potelé. Il y avait chez elle un principe de remords ou d'espérance. Son attitude annonçait un secret comme celle des dévotes qui prient avec excès ou celle de la fille infanticide qui entend toujours le dernier cri de son enfant. Non, pensais-je, je ne quitterai pas Vendôme sans savoir toute l'histoire de la Grande Bretèche. Pour arriver à mes fins, je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le faut absolument. « Rosalie !» lui dis-je un soir. « Vous n'êtes pas mariée ?» Elle tressaillit légèrement. « Oh, je ne manquerai point d'homme quand la fantaisie d'être malheureuse me prendra, » dit-elle en riant. Elle se remit promptement de son émotion intérieure, car toutes les femmes, depuis la grande dame jusqu'aux servantes d'auberge inclusivement, ont un sang-froid qui leur est particulier. Mais dites-moi, Rosalie, pourquoi vous êtes-vous faite servante d'auberge en quittant Madame de Merret ? Est-ce qu'elle ne vous a pas laissé quelque rente ? Oh, que si, mais monsieur, ma place est la meilleure de tout Vendôme. Cette réponse était une de celles que les juges et les avoués nomment dilatoires. Rosalie me paraissait située dans cette histoire romanesque comme la case qui se trouve au milieu d'un damier. Elle était au centre même de l'intérêt et de la vérité. Elle me semblait nouée dans un nœud. 15 jours après la visite du notaire, un soir ou plutôt un matin, car il était de très bonne heure, je dis à Rosalie « Raconte-moi donc tout ce que tu sais sur Madame de Merret. » « Oh » répondit-elle avec terreur, « ne me demandez pas cela, monsieur Horace. » Sa belle figure se rembrumit, ses couleurs vives et animées pâlirent et ses yeux n'eurent plus leur innocent éclat humide. « Eh bien, reprit-elle, puisque vous le voulez, je vous le dirai, mais gardez-moi bien le secret. » Là-dessus, elle ragréa son foulard et se posa pour compter. La chambre que Madame de Merret occupait à la Bretèche était située au rez-de-chaussée, un petit cabinet de 4 pieds de profondeur environ, pratiqué dans l'intérieur du mur, lui servait de garde-robe. 3 mois avant la soirée dont je vais vous raconter les faits, Madame de Merret avait été assez sérieusement indisposée pour que son mari la laissât seule chez elle et il couchait dans une chambre au premier étage. Par un de ces hasards impossibles à prévoir, il revint ce soir-là, 2 heures plus tard que de coutume, du cercle où il allait lire les journaux et causer politique avec les habitants du pays. Sa femme le croyait rentré, couché, endormi. Mais l'invasion de la France avait été l'objet d'une discussion fort animée. La partie de billard s'était échauffée, il avait perdu 40 francs, somme énorme, à Vendôme, où tout le monde thésaurise et où les mœurs sont contenues dans les cornes d'une modestie digne d'éloge, qui peut-être devient la source d'un bonheur vrai dont ne se soucie aucun Parisien. Depuis quelque temps, M. de Merret se contentait de demander à Rosalie si sa femme était couchée. Sur la réponse toujours affirmative de cette fille, il l'allait immédiatement chez lui avec cette bonhomie qu'enfantent l'habitude et la confiance. En rentrant, il lui prit fantaisie de se rendre chez Madame de Merret pour lui conter sa mésaventure, peut-être aussi pour s'en consoler. Pendant le dîner, il avait trouvé Madame de Merret fort coquettement mise. Il se disait, en allant du cercle chez lui, que sa femme ne souffrait plus, que sa convalescence l'avait embellie, et il s'en apercevait comme les maris s'aperçoivent de tout un peu tard. Au lieu d'appeler Rosalie, qui dans ce moment était occupée dans la cuisine, à voir la cuisinière et le cocher jouant un coup difficile de la brisque, M. de Merret se dirigea vers la chambre de sa femme, à la lueur de son falot qu'il avait déposé sur la première marche de l'escalier. Son pas, facile à reconnaître, retentissait sous les voûtes du corridor. Au moment où le gentilhomme toucha la clé de la chambre de sa femme, il crut entendre fermer la porte du cabinet dont je vous ai parlé. Mais quand il entra, Madame de Merret était seule, debout devant la cheminée. Le mari pensa naïvement en lui-même que Rosalie était dans le cabinet. Cependant, un soupçon qui lui tinta dans l'oreille avec un bruit de cloche le mit en défiance. Il regarda sa femme et lui trouva dans les yeux je ne sais quoi de trouble et de fauve. « Vous rentrez bien tard, » dit-elle. « Avez-vous appris quelque chose de triste ou souffrez-vous ? » lui demanda timidement sa femme. Pendant que Rosalie la déshabillait. Il garda le silence. « Retirez-vous, » dit Madame de Merret à sa femme de chambre, « je mettrai mes papillotes moi-même. » Elle devina quelque malheur au seul aspect de la figure de son mari et voulut être seule avec lui. Lorsque Rosalie fut partie, ou censée partir, car elle resta pendant quelques instants dans le corridor, Monsieur de Merret vint se placer devant sa femme et lui dit froidement « Madame, il y a quelqu'un dans votre cabinet. » Elle regarda son mari d'un air calme et lui répondit avec simplicité « Non, monsieur. » Ce nom navra Monsieur de Merret. Il n'y croyait pas. Et pourtant jamais sa femme ne lui avait paru ni plus pure ni plus religieuse qu'elle semblait l'être en ce moment. Il se leva pour aller ouvrir le cabinet. Madame de Merret le prit par la main, l'arrêta, le regarda d'un air mélancolique et lui dit d'une voix singulièrement émue Si vous ne trouvez personne, songez que tout sera fini entre nous. » L'incroyable dignité empreinte dans l'attitude de sa femme rendit au gentilhomme une profonde estime pour elle et lui inspira une de ces résolutions auxquelles il ne manque plus qu'un vaste théâtre pour devenir immortel. « Non, dit-il, Joséphine, je n'irai pas. Dans l'un et l'autre cas, nous serions séparés à jamais. Écoute, je connais toute la pureté de ton âme et sais que tu mènes une vie sainte. Tu ne voudrais pas commettre un péché mortel aux dépens de ta vie. Tiens, voici ton crucifix, ajouta cet homme. Jure-moi devant Dieu qu'il n'y a personne là. Je te croirai, je n'ouvrirai jamais cette porte. » Madame de Merret prit le crucifix et dit « Je le jure. » « Plus haut, dit le mari, et répète, je jure devant Dieu qu'il n'y a personne dans ce cabinet. » Elle répéta la phrase, sans se troubler. « C'est bien, dit froidement Monsieur de Merret après un moment de silence, vous avez une bien belle chose que je ne connaissais pas, dit-il en examinant ce crucifix en ébène incrusté d'argent et très artistiquement sculpté. Je l'ai trouvé chez Duvivier, qui, lorsque cette troupe de prisonniers passa par Vendôme l'année dernière, l'avait acheté à un religieux espagnol. « Ah !» dit Monsieur de Merret, en remettant le crucifix au clou. Et il sonna. Rosalie ne se fit pas attendre. Monsieur de Merret alla vivement à sa rencontre, l'emmena dans l'embrasure de la fenêtre qui donnait dans le jardin et lui dit à voix basse. Je sais que Gorenflot veut t'épouser. La pauvreté seule vous empêche de vous mettre en ménage et tu lui as dit que tu ne serais pas sa femme s'il ne trouvait moyen de se rendre maître maçon. Eh bien, va le chercher, lui dit-il, et dis-lui de venir avec sa truelle et ses outils. Fais en sorte de n'éveiller que lui dans sa maison, sa fortune passera à vos désirs. Surtout, sors d'ici sans jaser. Sinon... Monsieur de Merret, qui n'avait pas perdu de vue sa femme tout en donnant les ordres, revint tranquillement auprès d'elle devant le feu et se mit à lui raconter les événements de la partie de billard et les discussions du cercle. Lorsque Rosalie fut de retour, elle trouva Monsieur et Madame de Merret causant très amicalement. « Monsieur Gorenflot est là, » dit Rosalie à voix basse. « Qu'il entre, » répondit tout haut le gentilhomme Picard. Madame de Merret pâlit légèrement en voyant le maçon. Gorenflot, dit le mari, va prendre des briques sous la remise et apporte-en assez pour murer la porte de ce cabinet. Tu te serviras du plâtre qui me reste pour enduire le mur. Puis, attirant à lui Rosalie et l'ouvrier, écoute, Gorenflot, dit-il à voix basse, tu coucheras ici cette nuit. Mais demain matin, tu auras un passeport pour aller en pays étranger dans une ville que je t'indiquerai. Je te remettrai 6 000 francs pour ton voyage. Tu demeureras 10 ans dans cette ville. Si tu ne t'y plaisais pas, tu pourrais t'établir dans une autre pourvu que ce ne soit pas au même pays. Tu passeras par Paris où tu m'attendras là. Je t'assurerai par un contrat 6 autres 1 000 francs qui te seront payés à ton retour au cas où tu aurais rempli les conditions de notre marché. À ce prix... tu devras garder le plus profond silence sur ce que tu auras fait ici cette nuit. Quant à toi, Rosalie, je te donnerai 10 000 francs qui ne te seront comptés que les jours de tes noces et à condition d'épouser Gorenflot. Mais pour vous marier, il faudra se taire, sinon plus de dot. Rosalie, dit Madame de Merret, venez me coiffer. Le mari se promena tranquillement de long en large, en surveillant la porte, le maçon et sa femme, mais sans laisser paraître une défiance injurieuse. Gorenflot fut obligé de faire du bruit. Madame de Merret saisit un moment où l'ouvrier déchargeait des briques et où son mari se trouvait au bout de la chambre pour dire à Rosalie « 1 000 francs de rente pour toi, ma chère enfant, si tu peux dire à Gorenflot de laisser une crevasse en bas. » Quand le mur fut à moitié de son élévation, le rusé maçon prit un moment où le gentilhomme avait le dos tourné pour donner un coup de pioche dans l'une des deux vitres de la porte. Cette action fit comprendre à Madame de Merret que Rosalie avait parlé à Gorenflot. Tous trois virent alors une figure d'homme sombre et brune, des cheveux noirs, un regard de feu. Avant que son mari se fût retourné, la pauvre femme eut le temps de faire un signe de tête à l'étranger, pour qui ce signe voulait dire « espérer ». À 4 heures, vers le petit jour, car on était au mois de septembre, la construction fut achevée. Le maçon resta sous la garde de Jean et M. de Merret coucha dans la chambre de la femme. Rosalie, le lendemain, apporta une espèce de merlin à sa maîtresse qui, avec une ardeur dont rien ne pourrait donner une idée, se mit à démolir le mur. Elle avait déjà fait sauter quelques briques. Lorsqu'en prenant son élan pour appliquer un coup encore plus vigoureux que les autres, elle vit M. de Merret derrière elle. Elle s'évanouit. « Mettez madame sur son lit, » dit froidement le gentilhomme. Prévoyant ce qui devait arriver pendant son absence, il avait tendu un piège à sa femme. Il avait tout bonnement écrit au maire et envoyé chercher Duvivier. Le bijoutier arriva au moment où le désordre de l'appartement venait d'être réparé. « Duvivier, lui demanda le gentilhomme, n'avez-vous pas acheté des crucifix aux Espagnols qui sont passés par ici ?»« Non, monsieur. » « Bien, je vous remercie, » dit-il en échangeant avec sa femme un regard de tigre. « Jean, » ajouta-t-il, en se tournant vers son valet de confiance, « vous ferez servir mes repas dans la chambre de Madame de Merret. Elle est malade. Et je ne la quitterai pas qu'elle ne soit rétablie. » Le cruel gentilhomme resta 20 jours près de sa femme. Durant les derniers moments, quand il se faisait quelque bruit dans le cabinet muré, et que Joséphine voulait l'implorer pour l'inconnu mourant, il lui répondait, sans lui permettre de dire un seul mot, « Vous avez juré sur la croix qu'il n'y avait là personne. » Voilà, nous avons terminé donc cette histoire de Honoré de Balzac, la Grande Bretèche, et nous retrouverons une autre histoire demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.